Le café de Paris, tenu par Madame Veuve Mélanie Cartier, se trouvait sur la place du Palais, une grande place irrégulière, plantée de petits ormes poussiéreux. À Vauchamp, on disait « Viens-tu chez Mélanie ?» Au bout de la première salle, assez vaste, il y en avait une autre, le divan, très étroite, garnie de banquettes de moleskine le long des murs, avec quatre tables de marbre dans les angles. C'était là que Mélanie, désertant son comptoir où elle installait sa bonne Frosine, passait la soirée avec quelques habitués, les intimes, ceux qu'on appelait dans la ville ces messieurs du divan. Cela notait un homme. On ne le nommait plus qu'avec des sourires, où il entrait à la fois de la déconsidération et une sourde envie. Madame Cartier était devenue veuve à 25 ans. Son mari, un charron qui avait stupéfié Vauchamp en prenant le café de Paris à la mort d'un oncle, était revenu un beau matin avec elle de Montpellier, où il faisait tous les 6 mois un voyage pour ses liqueurs. Il montait sa maison. Il avait, avec ses fournitures, choisi une femme telle qu'il la voulait sans doute, engageante et poussant aux consommations. Jamais on ne sut où il l'avait ramassée. Et il ne l'épousa même que 6 mois après l'avoir essayé dans son comptoir. Les avis d'ailleurs se trouvaient partagés à Vauchamp. Les uns déclaraient Mélanie superbe, les autres la traitaient de gendarme. C'était une grande femme, avec de grands traits et des cheveux durs qui lui tombaient sur les sourcils. Mais personne ne niait sa force à entortiller les hommes. Elle avait de beaux yeux. Elle en abusait pour regarder fixement ces messieurs du divan qui pâlissaient et devenaient souples. Puis, le bruit courait que c'était un beau corps de femme. Et, dans le midi, on aime ça. Cartier était mort d'une façon singulière. On parla d'une querelle entre les époux, d'un dépôt qui s'était formé à la suite d'un coup de pied dans le ventre. Du reste, Mélanie se trouva fort embarrassée, car le café ne prospérait guère. Le charron avait mangé l'argent de l'oncle, à boire lui-même son absinthe et à user son billard. On crut un instant qu'elle serait forcée de vendre. Mais cette vie lui plaisait, et pour une dame, l'installation était toute faite. Il ne lui fallait jamais que quelques clients. La grande salle pouvait rester vide. Elle se contenta donc de faire coller du papier blanc et or dans le divan et de renouveler la moleskine des banquettes. D'abord, elle y tint compagnie à un pharmacien. Puis, vinrent un fabricant de vermicelles, un avoué, un magistrat en retraite. Et ce fut ainsi que le café demeura ouvert, bien que le garçon n'y servît pas 20 consommations en un jour. L'autorité tolérait l'établissement, parce que les convenances étaient gardées, et qu'en somme, beaucoup de gens respectables se seraient trouvés compromis. Le soir, dans la grande salle, 4 ou 5 petits rentiers du voisinage faisaient quand même leur partie de domino. Cartier était mort. Le café de Paris avait pris d'étranges allures. Eux ne voyaient rien. Conserver leurs habitudes. Comme le garçon devenait inutile, Mélanie finit par le congédier. C'était Frosine qui allumait un seul bec de gaz dans un coin pour la partie des petits rentiers. Parfois, une bande de jeunes gens, attirés par les histoires qu'on racontait, après s'être excité à entrer chez Mélanie, envahissait la salle avec des rires bruyants et gênés. Mais on les recevait d'un air de dignité glaciale. Ils ne voyaient pas la patronne, ou, si elle était là, elle les écrasait sous un mépris de belle femme, qui les laissait balbutiants. Mélanie avait trop d'intelligence pour s'oublier à des sottises. Pendant que la grande salle restait obscure, éclairée seulement dans l'angle où les petits rentiers remuaient mécaniquement leurs dominos, elle servait elle-même ces messieurs au divan, aimable sans licence, se permettant, aux heures d'abandon, de s'appuyer sur l'épaule de l'un d'eux pour suivre un coup délicat d'écarté. Un soir, ces messieurs, qui avaient fini par se tolérer, eurent une surprise bien désagréable en trouvant le capitaine Burle installé sur le divan. Il était, paraît-il, entré le matin boire un vermouth, par hasard. Et seul avec Mélanie, il avait causé. Le soir, quand il était revenu, Frosine l'avait tout de suite fait passer dans la petite salle. 2 jours après, Burle régnait, sans avoir pour cela mis en fuite ni le pharmacien, ni le fabricant de vermicelle, ni l'avoué, ni l'ancien magistrat. Le capitaine, petit et large, adorait les grandes femmes. Au régiment, on l'avait surnommé Juponneux, pour sa continuelle faim de la femme, pour sa rage d'appétit, qui se satisfaisait n'importe où et n'importe comment, d'autant plus violente qu'elle pouvait mordre dans un morceau plus gros. Lorsque les officiers, et même les simples soldats, rencontraient quelques outres de chair, un débordement d'appât, une géante soufflée de graisse, ils s'écriaient qu'elle fût engonie ou habillée de velours, « En voilà encore une pour ce sacré juponneux !» Toutes y passaient. Et le soir, dans les chambrées, on prédisait qu'il s'en ferait crever. Aussi, Mélanie, ce beau corps de femme, le prit-elle en entier, avec une puissance irrésistible. Il sombra, il s'abîma en elle. Au bout de 15 jours, il était tombé dans un hébétement d'amour gras, qui se vide sans maigrir. Ses petits yeux, noyés au milieu de sa face bouffie, suivaient partout la veuve de leur regard de chien battu. Il s'oubliait en continuelle extase devant cette large figure d'homme plantée de cheveux rudes comme des poils. De peur qu'elle ne lui coupât les vivres, comme il disait, il tolérait ces messieurs du divan et donnait sa paye jusqu'au dernier liard. Ce fut un sergent qui prononça le mot de la situation. « Juponneux a trouvé son trou, il y restera. » Un homme enterré. Il était près de 10 heures lorsque le major Laguitte rouvrit furieusement la porte du café de Paris. Par le battant lancé à toute volée, on aperçut un instant la place du palais, noire, changée en un lac de fange liquide, bouillonnante sous la terrible averse. Le major, trempé cette fois jusqu'à la peau, laissant derrière lui un fleuve, marcha droit au comptoir, où Frosine lisait un roman.
« Bougresse ! »
cria-t-il.
« C'est toi qui te fous des militaires ? Tu mériterais !»
Et il leva la main. Il ébaucha une claque à assommer un bœuf. La petite bonne se reculait, effarée, tandis que les bourgeois, béants, tournaient la tête sans comprendre. Mais le major ne s'attarda pas. Il poussa la porte du divan, tomba entre Burle et Mélanie, juste au moment où celle-ci, par gentillesse, faisait boire un grog au capitaine à petite cuillerée, comme on donne la béquée à un serin favori. Il n'était venu ce soir-là que le magistrat en retraite et le pharmacien, qui tous deux s'en étaient allés de bonne heure, pris de tristesse. Et Mélanie, ayant besoin de 300 francs le lendemain, profiter de l'occasion pour se montrer câline.
« Voyons, le chéri à sa mère, donnez le bec, c'est bon, hein, petit cochon !»
Le capitaine, très rouge, avachi, les yeux morts, suçait la cuillère d'un air de jouissance profonde.
« Nom de Dieu !»
gueula le major debout sur le seuil.
« Tu te fais donc garder par les femelles maintenant ? On me dit que tu n'es pas venu ? On me flanque à la porte pendant que tu es là à te ramollir. »
Burle, repoussant le grog, avait tressailli. D'un mouvement irrité, Mélanie s'était avancée, comme pour le couvrir de son grand corps. Mais Laguitte la regarda en face, avec cet air tranquille et résolu que connaissent bien les femmes menacées de recevoir une gifle.
« Laisse-nous !»
dit-il simplement. Elle hésita encore une seconde. Elle avait cru sentir le vent de la gifle, et, blême de rage, elle rejoignit Frosine dans le comptoir. Quand ils furent enfin seuls, le major Laguitte se posa devant le capitaine Burle. Puis, les bras croisés, se courbant, à pleine voix, il lui cria dans la figure
« Salaud !»
L'autre, ahuri, voulut se fâcher. Il n'en eut pas le temps.
« Tais-toi ! Tu t'es fichu salement d'un ami. Tu m'as collé des reçus faux qui pouvaient nous conduire aux galères, tous les deux. Est-ce que c'est du propre, ça ? Est-ce qu'on se fait des plaisanteries pareilles quand on se connaît depuis 30 ans ?»
Burle, retombé sur sa chaise, était devenu livide. Un grelottement de fiévreux agitait ses membres. Le major continua, en marchant autour de lui et en donnant des coups de poing sur les tables.
« Alors, tu as volé comme un gratte-papier et pour ce grand chameau ? Encore si tu avais volé pour ta mère, ce serait honorable, mais nom de Dieu ! Aller manger la grenouille et apporter la monnaie dans cette baraque. C'est ça qui m'enrage. Dis, qu'as-tu donc dans le coco pour te crever à ton âge avec un pareil gendarme ? Ne mens pas. Je vous ai vu, tout à l'heure, faire vos saletés. Tu joues bien, toi ?
Bégaya le capitaine.
Oui, je joue, tonnerre !
Reprit le major, dont cette remarque redoubla la fureur.
« Et je suis un sacré cochon de jouer, parce que ça me mange tout mon sein frusquin, et que ça n'est guère à l'honneur de l'armée française. Mais crénom de Dieu ! Si je joue, je ne vole pas. Crève-toi, si tu veux. Laisse mourir de faim la maman et le moutard. Seulement, respecte la caisse, et ne fous pas tes amis dans l'embarras. »
Il se tut. Burle restait les yeux fixés, l'air imbécile. On entendit pendant un instant que le bruit des bottes du major.
« Et pas un radis !»
reprit celui-ci violemment. «
Moi ? Te vois-tu entre deux gendarmes, un salaud ?»
Il se calma, il le prit par le poignet et le mit debout.
« Allons, viens. Il faut tenter tout de suite quelque chose. » Car je ne veux pas me coucher avec ça sur l'estomac. J'ai une idée. »
Dans la grande salle, Mélanie et la bonne Frosine causaient vivement, à demi-voix. Lorsqu'elle vit sortir les deux hommes, Mélanie osa s'approcher, pour dire à Burle, sur un ton de flûte,
« Comment, capitaine, vous partez déjà ?»«
Oui, il part !»
répondit brutalement la guide.
« Et je compte bien qu'il ne remettra jamais les pieds dans votre sale trou. »
La petite bonne, effrayée, tirait la maîtresse par la robe. Elle eut le malheur de murmurer le mot « ivrogne ». Du coup, le major lâcha la gifle qui lui brûlait la main depuis un instant. Les deux femmes s'étaient baissées. Il n'attrapa que le chiffon de Frosine, dont il aplatit le bonnet et cassa le peigne. Ce fut une indignation parmi les petits rentiers.
« Oh, nom de Dieu, filons !»
dit la guitte en poussant Burle sur le trottoir.
« Si je reste, je les assomme tous là-dedans. »
Dehors, pour traverser la place, ils eurent de l'eau jusqu'aux chevilles. La pluie, poussée par le vent, ruisselait sur leurs visages. Pendant que le capitaine marchait, silencieux, le major se remit à lui reprocher sa couillonnade, avec plus d'emportement. « Un joli temps, n'est-ce pas, pour courir les rues ? S'ils n'avaient pas fait de bêtises, tous deux seraient chaudement dans leur lit. » au lieu de patauger comme ça. Puis, il parla de Gagneux, un gredin dont les viandes gâtées avaient par 3 fois donné des coliques à tout le régiment. C'était dans 8 jours que finissait le marché passé avec lui. Du diable si, à l'adjudication, on accepterait son offre.
« Ça dépend de moi et je choisis qui je veux, »
grondait le major.
« J'aimerais mieux me couper un bras que de faire encore gagner un sou à cet empoisonneur. »
Il glissa, entra dans un ruisseau jusqu'aux genoux, et, la voix étranglée de jurons, il ajouta
« Tu sais, je vais chez lui, je monterai, tu m'attendras à la porte. Je veux voir ce que cette crapule a dans le ventre, et s'il osera aller demain chez le colonel, comme il m'en a menacé. Avec un boucher, nom de Dieu, se compromettre avec un boucher. Ah, tu n'es pas fier de toi, toi. C'est ce que je ne te pardonnerai jamais.
Ils arrivaient à la place aux herbes. La maison de Gagneux était toute noire. Mais la guide frappa violemment, et l'on finit par lui ouvrir. Resté seul dans la nuit épaisse, le capitaine Burle ne songea même pas à chercher un abri. Il demeurait planté au coin du marché, debout sous la pluie battante, la tête pleine d'un grand bourdonnement qui l'empêchait de réfléchir. Il ne s'ennuya pas. Il n'eut pas conscience du temps. La maison, avec sa porte et ses fenêtres closes, était comme morte. Et il la regardait. Lorsque le major en sortit, au bout d'une heure, il sembla au capitaine qu'il venait à peine d'y entrer. La guitte, l'air sombre, ne dit rien. Burle n'osa l'interroger. Un instant, ils se cherchèrent, se devinant dans les ténèbres. Puis, ils se remirent à suivre les rues obscures, où l'eau roulait comme dans un lit de torrent. Ils allaient ainsi, côte à côte, vagues et muets. Le major, enfoncé dans son silence, ne jurait même plus. Pourtant, comme il passait de nouveau sur la place du palais et que le café de Paris était encore éclairé, il frappa sur l'épaule de Burle en disant
« Si jamais tu rentres dans ce trou, n'aie pas peur, »
répondit le capitaine, sans le laisser achever la phrase. Et il lui tendit la main. Mais la guide reprit.
« Non, non, je t'accompagne jusqu'à ta porte. Comme ça, je serai sûr au moins que tu n'y retourneras pas cette nuit. »
Ils continuèrent leur marche. En remontant la rue des Récollets, tous deux ralentirent le pas. Puis, devant sa porte, après avoir sorti sa clé de la poche, le capitaine finit par se décider.
« Eh bien ? »
demanda-t-il.
« Eh bien ? »
reprit le major d'une voix rude.
« Je suis un salaud comme toi. Ouais, j'ai fait une saleté. Ah, sacré nom, que le diable t'emporte. Nos soldats mangeront encore de la carne pendant 3 mois. »
Et il expliqua que Gagneux, ce dégoûtant Gagneux, était un bougre de tête qui, petit à petit, l'avait amené à un marché. Il n'irait pas trouver le colonel. Il ferait même cadeau des 2000 francs, en remplaçant les faux reçus par des reçus signés de lui. Mais, en retour, il exigeait que le major lui assurât, aux prochaines adjudications, la fourniture de la viande. C'était une chose arrangée.
« Hein ?»
reprit la guide.
« Doit-il faire du rabiot, l'animal, pour nous lâcher ainsi 2000 francs ?»
Burle, étranglé d'émotion, avait saisi les mains de son vieil ami. Il ne put que balbutier des remerciements confus. La saleté que le major venait de commettre pour le sauver le touchait aux larmes.
Moi, oh, c'est bien la première fois,
grognait celui-ci.
Mais il le fallait. Nom de Dieu, ne pas avoir 2000 francs dans son secrétaire. C'est à vous dégoûter de jamais toucher une carte. Tant pis pour moi. Je suis un pas grand-chose. Seulement, écoute, ne recommence pas, car du diable si je recommence, moi.
Le capitaine l'embrassa. Quand il fut rentré, le major resta un instant devant la porte pour être certain qu'il se couchait. Puis, comme minuit sonnait et que la pluie battait toujours la ville noire, il rentra péniblement chez lui. L'idée de ces hommes le navrait. Il s'arrêta. Il dit tout haut, d'une voix changée, pleine d'une pitié tendre.
« Les pauvres bougres. Vont-ils en avaler de la vache pour 2000 francs ?